Bonjour tout le monde, c'est Benjamin Muller, j'espère que vous allez bien. Podcast des maternelles. Aujourd'hui, dans le podcast des maternelles, un sujet qui est douloureux, un sujet qui est sensible, mais un sujet important, il faut qu'on en parle, les bébés qui naissent trop tôt. Les bébés qui naissent beaucoup trop tôt, les prématurés et les grands prématurés. On va entendre un témoignage, celui d'Amélie, et puis derrière, nous aurons l'analyse et les conseils du professeur Pierre-Henri Jarreau. Mon bébé est grand prématuré, c'est parti.
Bah oui, certains bébés arrivent au monde bien trop tôt et pendant plusieurs semaines, la vie de ces très grands prématurés ne tient qu'à un fil. Bonjour Amélie.
Bonjour Ayane.
Merci d'être sur ce plateau. Ça fait très longtemps qu'on a envie d'entendre votre histoire. Pour tout vous dire, moi je connais votre histoire via les réseaux en fait, donc je vous ai un peu suivie. J'ai checké que Scheherazade allait bien. Donc Scheherazade, c'est votre petite fille, elle a un an maintenant. Vous êtes la maman aussi de Léonard, son grand frère, qui a 12 ans. Et votre petite préma, donc Scheherazade, elle est née à seulement 5 mois de grossesse. Donc, elle a débuté sa vie à l'hôpital, en réanimation. Elle ne pouvait pas respirer, elle ne pouvait pas manger toute seule. Donc, c'est important votre témoignage aujourd'hui parce que ça se termine bien. Ça va donner beaucoup d'espoir aux pères et aux mères qui vivent la même chose en ce moment. Déjà, avant de voir dans quelles conditions Scheherazade est née, comment s'est passée votre grossesse ?
Alors, ma grossesse s'est plutôt bien passée. Il n'y avait vraiment aucun problème identifié, en fait. Bon, c'était une grossesse à 36 ans, donc autant vous dire que j'étais plus fatiguée que la première, où j'avais 24 ans, où c'était plus facile physiquement. J'avais des vomissements, j'étais un peu fatiguée, mais honnêtement, rien d'inquiétant. En plus, c'était le début de l'épidémie du coronavirus, donc je télétravaillais, donc on ne peut pas dire que j'étais dans un rythme effréné à courir à droite et à gauche, j'étais plutôt posée. Et tout se passait bien. Les premières échos étaient complètement normales. Je n'avais pas de risque identifié, de MAP, comme on appelle ça, de menace d'accouchement prématuré. A priori, tout allait bien.
Mais vous aviez une petite sensation quand même.
Oui, en fait, j'arrêtais pas de dire à Hamza, mon conjoint, on n'est pas prêt. Et donc, j'avais cette espèce d'angoisse en train de dire, vite, vite, on n'est pas prêt, l'appart est trop petit, on n'a pas acheté le lit pour le bébé, la table à langer, rien. Il me disait, bon, calme-toi, tu es quand même à 3 mois et demi de grossesse, on a un peu le temps. Et c'était vrai, mon cerveau savait que c'était vrai objectivement, mais j'avais cette angoisse qui ne me quittait pas trop en me disant, t'es pas trop prête, dépêche-toi, voilà. J'avais cette sensation.
Et c'est le 13 septembre 2020 que tout a basculé. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là ?
En fait, on est parti en week-end pour rejoindre ma famille à Lyon. Donc, on est vraiment parti avec 2 culottes et 2 robes dans le sac. On est parti, c'était la fin de l'été, quoi. Et puis, je me suis mise à perdre du sang. Enfin, le cauchemar pour une femme enceinte. Je sentais que ça tirait un peu, mais pas vraiment des contractions identifiées, quoi. Et puis, à un moment, je vais aux toilettes et là, je vois une mare de sang. Donc, vite, vite, on va aux urgences. Alors, heureusement, mon cousin était là. Il nous a interdit de prendre la voiture paniquée pour aller dans le premier hôpital. Il nous a imposé d'appeler les secours. Ça, c'est vraiment un truc, si vous arrive quelque chose enceinte, ne prenez pas votre voiture. Enfin, si vous pouvez, s'il y a pas, si vous n'êtes pas en train d'accoucher là sur place, c'est quand même mieux d'appeler les secours, c'est plus safe. Et qu'ils nous ont dirigés vers le bon hôpital, qui était l'hôpital femme mère-enfant à Bron, en banlieue de Lyon, où j'ai été prise en charge d'abord aux urgences et où là on m'a dit vous saignez, on va faire une écho, mais à la fois moi j'ai commencé à avoir des contractions, j'avais peur, mais je suis en train de perdre mon bébé, j'ai très peur, enfin il faut absolument sauver mon bébé. Et en même temps je comprenais pas trop ce qui se passait parce qu'on me disait attendez, ça arrive de saigner pendant la grossesse, ça arrive d'avoir des hématomes, ça se rétracte, donc on va vous garder en observation. Mais dans les premières heures, je ne comprends pas vraiment ce qui se passe.
Évidemment, l'enjeu à ce moment-là, c'est de tenir. C'est de tenir, quoi. Voilà, il ne faut pas accoucher maintenant. Donc, vous dites ça parce que vous êtes à 22 semaines, le bébé n'est pas viable.
Voilà.
Donc là, les médecins vous disent quoi si jamais vous accouchez sur les chances de survie de Scheherazade ?
Ouais, en fait, c'est le lendemain. Ils me gardent la nuit, c'est le lendemain où je comprends ce qui se passe. C'est-à-dire, on voit la médecin en charge du service des grossesses pathologiques, puisque moi, au début, je suis en mode genre, ça va, je prends un train pour rentrer à Paris, ça va aller. Et bon, pas du tout. Là, on m'explique que j'ai un hématome de 13 cm dans le ventre, que c'est des saignements plutôt actifs, que Sherazade a 22 semaines. Et là, on me dit cette phrase, on me dit « Madame, on ne prend pas en charge les bébés avant 24 semaines ». Donc au début, je dis enfin, « Vous ne prenez pas en charge les bébés, d'accord, mais enfin, si elle naît, bah, on va s'occuper d'elle, en fait ». Et non, en fait, mon cerveau a mis quand même pas mal de temps à comprendre ce point-là. Et là, c'est là où je me dis, bon, bah, d'accord, mais on peut viser quand même, là, on est à 22 semaines, donc on peut se dire que je vais aller jusqu'à 30 semaines. Un accouchement, normalement, c'est à 40, 41 semaines à terme. Et là, on m'explique que non, il faut penser en jours, voire en heures, en fait.
Donc, vous êtes évidemment au repos, à l'hôpital. Vous allez, évidemment, vous atteignez les 24 semaines de grossesse. Et puis, deux semaines plus tard, c'est-à-dire là, vous êtes à 5 mois, de nouveau des saignements, des contractions, enfin des tiraillements, pareil ?
Oui, en fait, c'est ça. En fait, pendant la grossesse plateau, j'essaie de me mettre dans une bulle avec des rituels, faire de l'hypnose par téléphone, essayer vraiment d'être au repos maximum et voir un jour après l'autre tenir. Chaque jour qui passait était gagné. Et puis à un moment, on se dit, bon, bah, 24 semaines, c'est gagné, elle va survivre. Sauf que là, on nous explique ce qu'est la prématurité et qu'avant 28 semaines, les chances de survie sont très faibles parce qu'on est dans de l'extrême prématurité. C'est-à-dire que le bébé naît et pris en charge, mais tous ses organes ne sont pas du tout prêts à le faire vivre seul. Quoi. Enfin, il faut vraiment beaucoup d'assistance. Donc on tient jusqu'à 26 semaines, mais moi, dans ma tête, je partais jusqu'à au moins 30 semaines. Ouais. Et donc à 26 semaines, quand je me remets à avoir des contractions, quand je me remets à beaucoup saigner, à évacuer en fait, l'hématome, bon, bah là, ça va très vite. En fait, en une heure, ça bascule.
Tu es allée au bloc direct.
Et on m'emmène au bloc. Et moi, je ne comprends pas. Je dis non, je ne vais pas accoucher. Même si j'avais très mal, des contractions qui me faisaient très mal, je dis c'est pas grave, ça va passer. C'est déjà passé une fois, ça s'est stabilisé. Je n'accoucherai pas, je ne veux pas accoucher. Et là, on me dit si, madame, on vous amène au bloc. Là, Hamza, qui est allé chercher mon fils, bref, n'était pas là. On me dit il faut qu'il vienne vite, parce que dans une heure, vous avez accouché.
Et donc, elle est née à combien alors ?
Elle est née à 26 semaines et un jour. Elle est née à 26 semaines et un jour.
Vous l'avez vue quand elle est, quand
non.
Elle est née ?
Non, en fait, c'est ça qui est compliqué un peu dans les accouchements extrêmes, prématurés comme ça, où vraiment il y a un enjeu vital pour le bébé, où c'est très très tôt. C'est que bon, bah évidemment, bon, alors évidemment non, il y a certains accouchements qui peuvent se faire par voie basse, mais Sherazade, c'était une césarienne parce qu'elle était en siège, donc ça aurait été trop compliqué à vivre, un accouchement naturel, enfin par voie basse. Ouais. Donc césarienne, et en fait, si vous voulez, moi, quand on m'emmène au bloc, bon, ben, je suis dans des flots de larmes, je leur dis, ne m'enlevez pas mon bébé, en fait. Pour moi, ce n'est pas un accouchement que je vais vivre, c'est on va m'enlever mon bébé de mon ventre. Donc c'est compliqué. Heureusement, l'auto-hypnose m'a aidée à me mettre dans un moment un peu plus calme, au moment où elle est née, où j'essaie de me visualiser en lui donnant la vie.
Vous l'avez vue, vous l'avez entendue ?
Je l'ai entendu miauler, en fait. J'ai surtout entendu les médecins qui ont dit ouverture de la poche des os, naissance, 16h16. Et là, j'ai entendu un miaulement. Et ils l'ont tout de suite emmené en réanimation. Et une sage-femme que je ne remercierai jamais assez l'a prise en photo, m'a montré la photo et m'a dit elle a respiré toute seule. Et ça, c'était génial. Et après, ils ont dû l'intuber. Mais le fait qu'elle prenne la première respiration, c'était vraiment incroyable.
Elle est restée en réanimation 7 semaines.
Oui.
C'est long.
C'est très long, cette
Comment
semaine.
Comment vous avez vécu cette période ?
Cette semaine de réanimation, c'est très long. C'est très long quand on voit son bébé entre la vie et la mort. Et en fait, la réanimation, c'est le pronostic vital est engagé sur les 12 prochaines heures. Donc, tous les jours, on ne sait pas si son bébé va survivre. C'est très impressionnant d'arriver dans la réanimation. C'est un univers extrêmement médical. Son bébé est tout petit, dans une couveuse, branché. Il y a des fils partout. Il est relié à un scope qui donne les battements de cœur, la respiration, la tension.
Donc il y a toutes ces machines et tout. Il y a un moment, vous avez pu la prendre en peau à peau, la toucher, c'était...
Oui, alors... Au début, on ne peut pas parce qu'elle est trop petite et puis on a peur aussi. Il y a un enjeu aussi, son système immunitaire est très faible, donc attention aux microbes, etc. C'est un univers très médicalisé, voilà, où l'hygiène est très importante. Mais au bout de 4 jours, une des infirmières puéricultrices nous a dit « Si vous voulez, cet après-midi, on peut tenter le pot à pot. » Et là, en fait, c'est comme si mon cerveau s'était reconnecté les 4 premiers jours. On m'a expliqué plein de choses sur les chances de survie, sur les machines, à quoi ça servait. J'entendais les bruits, je voyais tout. Les médecins étaient là, les infirmières hyper présents, mais je ne comprenais pas ce qui se passait. Et à partir du moment où on m'a dit que je pouvais faire du pot à pot, et son papa aussi d'ailleurs, ça a reconnecté dans mon cerveau. Et c'est là où je pense qu'on s'est mis en guerre, entre guillemets, où on s'est dit, allez, on commence ce combat et il faut qu'on la porte ensemble. Et on ne sait pas combien de temps ça va durer, on ne sait pas quelle va être l'issue.
Vous lui parliez et tout, vous lui demandiez de tenir.
Bien sûr, ouais. Ces heures de peau à peau, que ce soit pour moi et pour son papa, et c'est très important aussi de parler du rôle du papa dans la néonate, à quel point c'est important, parce qu'il a pu faire, Hamza, des peaux à peau avec sa fille très tôt. Et j'ai souvent que Hamza a porté Shahrazad autant que moi. Et on a eu cette chance-là dans cette épreuve. Et c'est vrai que ces heures de peau à peau, et bah, c'est des moments où on a son bébé qui est contre soi. Elle est branchée, il y a tous les fils, c'est très impressionnant. Elle est très petite et puis on a peur parce que parfois elle désature sur nous, il faut la réanimer sur nous. Donc c'est extrêmement
violent
et intense. Ouais. Et en même temps, c'est ces moments-là où même quand on a peur et on se dit mais est-ce qu'on va vraiment faire le peau à peau parce que là elle a perdu du poids, on a peur, c'est dangereux. Tous les médecins nous encouragent à le faire parce que c'est des moments extrêmement bénéfiques pour le développement psychomoteur de l'enfant. Ouais. Parce que c'est des moments où se crée quelque chose qui est presque pas explicable médicalement.
C'est le lien, voilà. Avec un grand L. Elle est sortie le 6 janvier 2021 de l'hôpital, donc 4 mois d'hospitalisation. Mmh. Le retour à la maison, comment ça s'est passé? Vous étiez confiante vous étiez peut-être un peu en choc post-traumatique, parce que quand même 4 mois, c'est long.
Ouais, en fait, le retour à la maison, c'est à la fois la chose dont on a le plus envie, c'est le but ultime pendant les 4 mois où tous les jours on se bat, où tous les jours c'est dur, on se dit voilà, c'est le but. Moi, mon rêve, c'était de me retrouver sur mon canapé avec mes deux gosses, quoi. On m'aurait dit tu pars aux Bahamas, non, je voulais être sur mon canapé avec mes deux enfants. Et c'est un vertige en même temps. C'est un vertige parce que ça fait peur, parce qu'il n'y a plus de scope, parce que comment on fait pour savoir si son bébé respire, parce qu'on a peur de la mort subite du nourrisson qui menace un peu plus chez les anciens prématurés. Donc on se demande, est-ce que j'ai le bon matériel, est-ce que je vais savoir m'en sortir, alors que j'ai déjà élevé un enfant, j'ai déjà eu un bébé. Bon, bah, c'était comme tout réapprendre. Heureusement, le personnel hospitalier nous a beaucoup accompagnés. Moi, il y a quelque chose qui a été très important à la fin de mon hospitalisation, ça a été d'avoir une chambre mère-enfant qui m'a permis de lier avec mon bébé H24, qui m'a permis d'être avec mon bébé sans masque. Il faut quand même imaginer que pendant ces 2 premiers mois de vie, ma fille n'a pas vu mon visage, et qui m'a permis de mettre en place un allaitement exclusif, ce qui m'a permis vraiment de lier avec elle.
L'allaitement, ça a été vraiment le pont, quoi, le lien entre
elles. Oui, moi, j'ai complètement... Enfin, pour moi, l'allaitement a été quelque chose d'hyper important. Allaiter en réa, c'est très dur, allaiter un enfant prématuré. Mais il y a un enjeu, parce que les prémas ne peuvent boire que du lait maternel, pour leur développement, au début en tout cas. Donc, soit les mamans arrivent à allaiter, soit si c'est trop dur, et ça peut être trop dur, il y a tout un principe de lactarium.
Oui, bien sûr. Alors ça, on en parle souvent dans la maison des maternelles. Bonjour professeur Pierre-Henri Jarrot.
Bonjour.
Merci d'être sur le plateau de la Maison des Maternelles. Vous êtes chef de service de médecine et de réanimation néonatale de la maternité Cochin, Port-Royal à Paris. Vraiment, je dirais Port-Royal, super réputé, hein, donc voilà, comme néonate. On a beaucoup de questions à vous poser. On l'entend dans le récit d'Amélie, ce sont forcément des montagnes russes émotionnelles pour les parents, parce que l'état de santé d'un prématuré, ça peut aller très bien à 9h49 et à 9h50, ça bascule. Pourquoi est-ce que c'est si fragile? Qu'est-ce qui se trame? Qu'est-ce qui se passe?
Alors, c'est complexe, mais ce sont des enfants, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ça peut être une infection, ça peut être un problème digestif, à ce moment-là, tout va mal.
C'est-à-dire la respiration. Tout petit truc prend des proportions.
Peut prendre des... Pas toujours, hein, évidemment. Oui. Heureusement, il y a plein de cas où ça se résout assez rapidement. Mais effectivement, ce sont des enfants très fragiles où l'ensemble des organes peuvent être mis à contribution et du coup défaillir sur un événement relativement...
Donc c'est un marathon, la prise en charge de ces enfants. C'est-à-dire que
c'est un marathon pour eux, c'est surtout un marathon pour les parents aussi.
Pour toute la famille.
Comme Amélie l'a bien raconté. Ouais.
Voilà.
On a reçu pas mal de questions pour vous, en vidéo notamment celle-ci de Solène, regardez.
Bonjour à toute l'équipe, je suis la maman de Marceau et Zachary, 2 petits garçons qui sont nés à 26 semaines. On a été séparés à la naissance et je voulais savoir si ça avait pu avoir un impact sur notre relation future et si oui, comment est-ce qu'on pourrait reconstruire cette relation. Voilà, merci beaucoup, bonne journée, au revoir.
Alors, je ne vais pas dire que ça ne peut pas avoir d'impact parce que normalement, on est avec la maman est dans sa chambre avec son bébé à côté, qui pèse 3,5 kg, qui tète, qui va bien et qui ne pose pas de problème. Donc évidemment, il y a une rupture là qui existe. On essaye justement par le fait que les parents viennent beaucoup dans les unités de soins, pour plusieurs heures, plusieurs dans la journée, on les incite à ça.
Faire il y a du même, pot à pot, dès qu'on peut le faire.
Voilà, faire du pot à pot. Il y a même des structures où il y a des chambres familiales, c'est plutôt en Suède, il n'y en a pas encore beaucoup en France, mais où il y a des chambres familiales, où les parents sont là en permanence.
Ça, c'est bien, ça.
Voilà. Alors, ce qu'il y a, c'est que les congés maternité ou paternité en Suède ne sont pas les mêmes qu'en France non plus.
Voilà, il y a tout un... une atmosphère à changer.
Voilà. Et donc, évidemment, y a le fait de naître prématurément, ça va forcément induire quelque chose de différent de ce qui serait arrivé si l'enfant était né à terme. Mais ça ne veut pas dire que ça va avoir des... Je ne veux pas dire que ça n'a pas de conséquences. C'est simplement une autre...
Autre chose.
C'est autre chose. Ouais. C'est une autre... Et il n'y a pas à reconstruire quelque chose. Il y a à être présent auprès de son enfant, il y a à établir ce lien le plus possible. Et vraiment, les unités de néonatologie aujourd'hui sont très, très attentives à ça. Et Solène va avec son bébé construire quelque chose de différent de ce qui sera arrivé.
J'imagine, au bébé, voilà, bien sûr. Dès le début, en fait.
Absolument.
Alors, on a une autre question en vidéo, pardon, de Perrine sur les enfants prématurés.
Bonjour à tous. Je souhaitais savoir si mon bébé prématuré acquiert ses cinq sens plus intensément et plus rapidement qu'un bébé né à terme. Merci beaucoup.
Alors ça, vous me posez un peu une colle, c'est un peu compliqué. Ce qu'on peut dire, c'est que les bébés prématurés sont soumis à des stimulations sensorielles, la vision, l'audition, le toucher, auxquelles ils ne devraient pas être soumis s'ils n'étaient pas nés prématurés. Voilà. Ouais. Est-ce qu'il y a une accélération des... Par exemple, je sais que pour la vision, c'est relativement clair qu'en fait, un enfant prématuré qui n'a pas eu de problème de vision particulier... Il va avoir en fait le développement, quand il arrivera à terme, il verra comme un enfant à terme. Voilà, donc il n'y a pas d'accélération de ce point de vue-là. Après, on sait que par exemple, le toucher, c'est tout de même quand il est in utero, il touche évidemment les parois de l'utérus. Là, voilà. Mais en même temps, quand il est sorti, là, il est beaucoup touché, il touche beaucoup, etc. On sait qu'il y a des aptitudes au toucher, mais je ne sais pas si c'est difficile de dire que ça accélère ou pas. Voilà. Ouais. C'est une. Il n'y a pas beaucoup, j'ai regardé un petit peu, il n'y a pas d'études très claires là-dessus, sauf sur la vision, il y a des choses un petit peu plus...
Qu'est-ce qu'on appelle une naissance prématurée? Est-ce qu'on peut faire un...
Alors, par définition, une naissance prématurée, c'est une naissance avant 37 semaines d'aménorrhée, ce qui en gros constitue 8 mois de grossesse. Hein, voilà. Donc ça, toutes les naissances qui surviennent avant 37 semaines sont des naissances prématurées. Ça représente en France entre 7 et 7,5% des naissances, à peu près.
Ça, c'est rassurant déjà, c'est quand même pas énorme.
C'est pas énorme, en sachant que les prématurités, ce qu'on appelle modérées et tardives, sont moins compliquées à gérer et n'ont pas de conséquences...
Que les grands prématurés.
Voilà, et les grands prématurés, c'est-à-dire avant 32 semaines, ce qui est avant 7 mois de grossesse, ou les extrêmes prématurés avant 6 mois, avant 28 semaines, eux posent plus de problèmes, mais ils ne représentent à peu près qu'un pour cent des naissances. Hein, donc, c'est pas une...
Caroline vous dit, comment décide-t-on de la sortie de l'hôpital d'un préma? Est-ce qu'il y a des critères? J'imagine que oui.
Oui et non. C'est-à-dire, les critères, c'est qu'il faut qu'il... Alors, ça dépend un tout petit peu des structures, parce qu'il y a parfois des structures où on peut faire un certain nombre de choses à la maison. Mais, en gros, il faut qu'il respire tout seul.
Oui.
Alors, il peut avoir besoin d'un peu d'oxygène, notamment chez les extrêmes prématurés, ça peut arriver... à la sortie à la maison, et ça, ça se gère assez facilement. Mmh. Et il faut évidemment qu'il s'alimente tout seul, c'est-à-dire qu'il sache prendre le sein ou le biberon tout seul.
C'est pas une question de poids aussi?
Non, a priori, si il mange complètement, qu'il tient ce qu'on appelle ses glycémies, donc le sucre dans le sang, en s'alimentant régulièrement, et qu'il respire tout seul, il n'y a pas de raison de les garder plus. Vous savez que l'hôpital est un endroit plutôt dangereux.
Oui, on n'aime pas rester pour rien. Ouais,
ça, voilà.
Non, ça c'est si on vous le confirme.
Charlotte, je suis enceinte de 6 mois. Ma mère vient d'être hospitalisée. Elle vous demande si un gros choc émotionnel peut déclencher un accouchement prématuré.
Je ne vais pas vous dire non, je ne vais pas vous dire oui non plus. Effectivement, c'est pas ça qui c'est pas quelque chose d'habituel, mais ça peut peut-être arriver. Voilà.
On peut sans doute rassurer Charlotte.
Voilà, on peut la rassurer. Il n'y a pas de... A priori, il n'y a pas de données là-dessus qui montrent ce genre de choses.
Priscilla a besoin d'être rassurée aussi. Elle dit « Bonjour, je suis enceinte de 5 mois. Il y a un stérilet contre la membrane car il n'a pas pu être retiré. Est-ce qu'il y a plus de risques de prématurité dans ce cas-là »
Alors, une question qu'il faudrait poser aux obstétriciens plus qu'aux pédiatres. Pas que je sache, voilà, il y a éventuellement un peu plus de risques infectieux. Voilà.
Est-ce que vous pensez que les parents sont bien préparés au retour à la maison ? On vous demande Louisa. C'est vrai que souvent dans les témoignages que nous on peut avoir, et vous encore plus j'imagine, ils nous disent que le jour où ils se retrouvent à la maison, ils se sentent un peu perdus.
Alors, il faut préparer, je pense que la plupart des services en France essayent de préparer les parents à la sortie. Nous, on organise ce qu'on appelle des cafés-conseils, des cafés de préparation à la sortie. On a un film sur qu'est-ce qui va se passer, qu'on leur présente. Voilà. Et puis, il y a surtout un accompagnement pendant toute l'hospitalisation. Il faut comprendre que le temps passé avec les parents, aussi bien par les infirmières que par les médecins, est très, très important pour cet accompagnement. Donc, on essaye de les préparer. Ça ne veut pas dire que le fait de se retrouver sans X infirmières, X médecins à côté d'eux, du jour au lendemain, sans scope, comme
c'est forcément source d'angoisse, mais c'est normal.
C'est normal, ouais. Voilà. Donc on essaie de les préparer au mieux là-dessus. Ils savent qu'ils peuvent toujours nous appeler. Ils ont tous les numéros du service. Il n'y a pas de difficulté. Après, c'est un petit peu un choc quand on a passé 4 mois dans un endroit avec un enfant fragile. Bah, c'est vrai que quand on sort, mais bon, tout ça, ça se prépare. Et je pense que tout le monde le fait. C'est essentiel, enfin, je veux le faire. Donc.
On a beaucoup de questions sur les causes de la prématurité. Karine pose une question, mais aussi Ingrid, qui dit « Bonjour, la maison des maternelles. L'état psychologique de la maman, l'angoisse ou la dépression peuvent-ils causer un accouchement prématuré ?»
Là aussi, il n'y a pas beaucoup de données que je sache sur cette question. Donc, voilà. Après, l'interaction entre
la maman,
entre la psychologie et c'est complexe.
Oui, on ne maîtrise pas tout.
On ne maîtrise pas, tout à fait tout.
Les choses ont beaucoup évolué sur le lien entre les parents et les enfants extrêmement prématurés. Est-ce qu'il y a 20 ou 30 ans, on insistait autant pour que les parents aillent voir les tout petits bébés en couveuse pour qu'ils puissent faire du pot à pot, ou ça c'est relativement nouveau ?
Alors,
quand je dis nouveau, ça
dépend
c'est
des services. Il se trouve que dans le service que je dirige maintenant, depuis très longtemps, les parents sont admis, mais quand j'étais interne et jeune chef de clinique, les parents ils venaient l'après-midi, par exemple. C'était de 14 à 18 heures et pas plus. Donc aujourd'hui, ils viennent 24 heures sur 24 quand ils veulent. Ils ont des fauteuils confortables. Ils peuvent dormir éventuellement sur place. Enfin, voilà. Donc là, il y a des choses qui ont évolué.
Ils font partie du parcours de soins.
Du parcours de soins, et c'est même essentiel. Qu'on essaie de mettre en place, c'est-à-dire ce qu'on appelle les soins de confort et de développement, qui tiennent. On a fait beaucoup de progrès techniques, en ventilation, en nutrition, etc. Mais là où on va gagner beaucoup, probablement beaucoup, c'est sur justement tous ces soins de développement qui tiennent compte du développement notamment neurologique de l'enfant, par exemple de limiter les stimulations visuelles, de limiter les stimulations auditives qui ne sont pas appropriées au terme auquel...
Auditives notamment,
Et surtout la présence des parents et leur participation aux soins le plus vite possible. Alors les soins que font des parents, on ne va pas leur demander de perfuser un enfant,
Les câlins, les petites caresses,
tout à fait.
Leur parler.
La non-séparation de la mère et de l'enfant, il y a des progrès considérables qui ont été faits, ça c'est fabuleux.
Et donc aujourd'hui,
Pendant le Covid, les parents pouvaient continuer d'aller autant qu'ils voulaient voir leur bébé ?
Oui, alors tout a été compliqué un petit peu, je ne vais pas vous dire parce que ça dépend des services.
Ouais. Et par exemple chez vous ?
Chez nous, on avait décidé qu'on laisserait les parents... venir régulièrement. On essayait de séparer
les parents qui ne viennent pas tous en même temps.
Mais bon.
Et vous ne devez pas le regretter aujourd'hui, j'imagine.
Non, tout à fait.
Alors, on a une autre question de Nouchette qui dit: notre fille née prématurée a fait de l'anorexie du nourrisson. Quels moyens peuvent être mis en œuvre pour une alimentation plus riche ?
Est-ce que c'est de l'anorexie du nourrisson ? C'est compliqué, l'anorexie du nourrisson, c'est pas quelque chose qui est, et c'est pas particulièrement lié à la prématurité. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des troubles de l'oralité, c'est-à-dire que le fait de prendre le biberon, puis de s'alimenter ultérieurement, peut être compliqué chez un certain nombre d'enfants. Parce que si vous prenez des enfants à 24 semaines, par exemple, ils vont commencer, bien sûr, on les alimente très très vite, mais par une sonde dans l'estomac. Et donc, quand ils arrivent, et on commence à essayer de leur donner... les faire boire directement, soit au biberon, soit au sein, soit surtout à la paille au tout départ.
Peut mettre du temps d'ailleurs qu'ils y arrivent.
On commence qu'à 33-34 semaines.
Ouais.
Donc ils ont déjà 8 ou 10 semaines de vie.
Ouais.
Donc c'est vrai que ça peut induire des troubles de l'oralité. Donc je ne parlerai pas d'anorexie de nourrisson en l'occurrence. Et ces troubles de l'oralité, on peut essayer de les prévenir. Donc il y a tout un travail, en tout cas de mon service qui est fait, mais je suppose qu'il est fait partout, avec les kinés, les orthophonistes, etc., pour justement prévenir le fait que quand on va essayer de lui mettre une alimentation directe, j'allais dire, ça se passe bien, quoi, et ça progresse vite. Mmh. Et donc là, il y a tout un travail à faire, effectivement, ça fait partie des choses qui sont un peu invisibles, hein, c'est moins visible que la technique, les grosses machines ou les scopes, mais en fait, c'est essentiel.
C'est très important, oui.
Bon, il y a une question qui est douloureuse, mais il faut la poser. C'est Chloé qui vous demande, existe-t-il une limite de viabilité admise pour tenter de sauver un bébé prématuré à la naissance ?
Alors, c'est une question complexe. Ce qu'on peut dire, c'est que l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, a défini la déclaration de naissance. Je dis déclaration de naissance, c'est-à-dire que l'enfant peut être né vivant ou être né mort. Mais tout enfant qui naît à partir de 22 semaines et de plus de 500 grammes ou plus, doit être déclaré. C'est un intérêt épidémiologique international, c'est de pouvoir comparer les... Ça ne veut pas dire que tous les enfants à 22 semaines peuvent survivre. Et dans la plupart des pays, ils ne survivent pas. Il y a deux pays qui sont un tout petit peu exceptionnels sur le résultat là-dessus, c'est le Japon et la Suède, qui ont un peu plus, qui ont un petit taux de survie des 22 semaines. Mmh. La plupart du temps, ces enfants-là ne sont pas pris en charge en réanimation, c'est-à-dire qu'à la naissance, ils vont être accompagnés, hein, ce qu'on appelle des soins palliatifs à la naissance, et on ne va pas essayer de les réanimer, de leur mettre des tuyaux partout, etc., alors qu'on sait que le pronostic est très, très... Et voilà.
C'est à partir de combien de semaines ?
Alors, en France, jusqu'à il y a 10 ans, on s'aperçoit qu'il n'y avait pas de survie avant 24 semaines. C'était la grande étude d'épipage 2, en l'occurrence, qui a montré ça. Ça traduit quoi ? Ça ne traduit pas le fait qu'il n'y a pas de survie possible avant 24 semaines, ça traduit le fait que les néonatologistes et obstétriciens français ne souhaitaient pas prendre en charge avant 24 semaines. C'est en train clairement d'évoluer, parce que quand on regarde les résultats internationaux, on est... franchement, en deçà des résultats des pays, bien sûr, qui ont les moyens de faire ce type de réanimation, ce qui coûte très très cher, hein, faut rappeler que ce n'est pas possible dans tous les pays. Et donc, on a des résultats, à 23 semaines, on était à zéro survie, hein, je crois qu'il y avait un enfant sur 5000, donc voilà. Et à 24, un résultat qui était aux alentours de 30% et qui était beaucoup plus faible que dans beaucoup d'autres pays. C'est en train d'évoluer. Très clairement, il y a eu des propositions qui ont été faites. Et peut-être le plus important, ce n'est pas de parler de termes, ce n'est pas de dire 24 ou 23. C'est-à-dire qu'un 24 semaines, il peut être dans des conditions favorables en fonction de l'estimation du poids fœtal. Il n'y a pas d'infection, il n'y a pas de rupture. Et donc, on va essayer parce qu'on se dit, ça vaut le coup d'essayer. Et puis, un 25 semaines peut être tout petit pour son terme. Il peut y avoir une rupture prolongée, etc. Et on se dit, là, ça... On va lui imposer quelque chose qui n'est pas justifié. Donc, voilà, je crois qu'il ne faut pas parler sur un terme, parce que le terme, vous savez, il est imprécis. Hein. Quand l'obstétricien vous donne un terme sur l'échographie précoce,
oui, c'est
à plus ou moins 5 jours. Hein.
Ouais, bien sûr. Ouais,
vous prenez à 24 semaines, c'est peut-être à 23 plus 2 ou à 24 plus 5. C'est plus complexe.
Une question de Christophe qui dit que sait-on des séquelles à long terme des bébés très grands prématurés ? Troubles des apprentissages, hyperactivité, troubles 10, troubles de l'oralité ?
Il y a des séquelles. Alors, les grands prématurés, c'est à partir de 32 semaines. Il faut savoir qu'à partir de 30 semaines, il y a 90% de survie. Hein. Donc, c'est relativement élevé. C'est au-dessous que ça peut diminuer. Alors, si vous prenez à 24 semaines, on est plutôt à 50% de survie. Hein. Donc,
c'est beaucoup plus faible.
Et les troubles chez les survivants existent. Et donc, ça suppose essentiellement de les suivre. Ce n'est pas parce qu'un trouble apparaît qui ne peut pas être pris en charge, tout simplement. Donc, il faut un suivi. Il y a des réseaux maintenant de suivi de nouveau des vulnérables qui existent un peu partout en France. Il faut les suivre, il faut les examiner et les adresser.
Ça, le cas nécessaire. Après, du coup,
alors, c'est les pédiatres après, c'est les... Alors, souvent, les néonatologistes suivent les leurs pendant un ou deux ans, et puis les pédiatres de ville, voilà.
Merci beaucoup, professeur Pierre-Henri Jarreau. Merci beaucoup à Amélie Chala avec Agathe Le Caron et Yasmine Ouglis. Allez, on se retrouve nous demain pour un épisode inédit du podcast des maternelles, un épisode embedded, comme on dit, au sein d'une maternité, au sein de la maternité Port-Royal. J'ai pu passer la journée d'hier, la journée de jeudi, quasiment toute la journée dans la maternité. Donc vous imaginez qu'on en voit des choses particulière quand on passe du temps dans une maternité. Bah, c'est ce que j'ai fait. J'avais mon petit micro, j'ai enregistré. Et donc, l'idée est de suivre la journée dans une maternité et notamment de suivre le travail des sages-femmes. Les sages-femmes qui sont en ce moment en grève. Donc, on va mieux comprendre leurs revendications et leur travail. Tout simplement, l'épisode sera en ligne demain, samedi, dans la journée. Allez, ciao tout le monde. À bientôt, bon week-end.